Avec votre grand journal du soir présenté par François Claus.
On ne va pas dramatiser, mais ce sont des images qui vont rester dans l'histoire. Elles sont pour le moment historiques, en espérant qu'elles ne présument pas de ce qui va se passer année par année, été après été, qu'elles resteront dans un coin de notre mémoire et dans celle de l'histoire. Ça, c'est pas sûr du tout. On retiendra évidemment ces transports, le chaos du côté du RER cette nuit, une panne d'électricité, les trains qui prennent des retards et la ministre des Transports qui nous conseille en pleine période de vacances de ne pas se déplacer. Nous avons aussi ces incendies qui se multiplient au bord des routes, aux portes des villes, dans des champs totalement asséchés. Ces images, elles resteront là. Elles resteront comme cette image qu'on évoquera tout à l'heure d'un glacier qui a totalement disparu en Islande. Cette image aussi de ces centaines de milliers d'hectares de forêt qui brûlent en Alaska du jamais vu. Le réchauffement climatique s'est accéléré de 4 fois en 10 ans dans cette région. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde. On ne va pas dramatiser parce que dans quelques heures, on va un petit peu respirer. On a entendu Elena Mornar. On attend bien sûr tous vos témoignages au 39-21 et on va s'interroger à 18h30 avec un des grands spécialistes du transport en France, Gilles Dansart, qui nous expliquera est-ce que la France a du retard sur son réseau ? Qu'est-ce qui explique cette difficulté dès qu'il y a un incident climatique en hiver ou en été à entraîner ces blocages systématiques ? Là aussi, nous attendons vos témoignages au 39-21. 18h10, restez bien à l'écoute, on va évoquer un monde que vous ne soupçonnez pas, la guerre des satellites, la guerre de l'espace. Florence Parly annonçait son programme, 3 milliards y consacre la France, plus 700 millions d'ici là pour créer quoi ? Pour créer des essaims de nanosatellites qui vont aller dans l'espace pour surveiller nos ennemis, des mitraillettes sur les satellites pour les défendre, des lasers à 400 km de portée pour venir éventuellement pulvériser les satellites ennemis. C'est un monde qu'on ne connaît pas et qu'on va essayer de découvrir avec vous. On va bien sûr revenir dans cette actualité également sur la mort du président tunisien, l'homme qui a incarné les printemps arabes. On va également parler évidemment du Tour de France dans un instant. C'est parti pour votre grand journal 39-21, bien sûr.
18h, 19h,
votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
Le Tour de France était effectivement la première des trois grandes étapes alpestres, 207 km entre Embrun et Valloire, par la magnifique notamment vallée du Queyra, avec des cols qui ont tenu leur promesse. C'est Axel May que l'on retrouve sur la route du Tour, ou Marguerite Lefebvre. Axel May était sur la moto aujourd'hui. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir François.
Romain Bardet a tenté sa revanche, il n'y est pas parvenu, et c'est un Colombien qui triomphe.
Oui, on peut dire cet après-midi qu'on a assisté à deux matchs France-Colombie. Le premier s'est déroulé en tête de course pour la victoire d'étape et c'est en effet le Colombien Nairo Quintana qui s'est envolé sur les pentes les plus raides du Galibier. Il a lâché le Français Romain Bardet qui n'a pas réussi à accrocher sa roue. Mais consolation toutefois pour Bardet qui récupère ce soir le maillot à poids de meilleur grimpeur. Il y a eu ce match-là et puis une fin de course complètement folle derrière dans le groupe des favoris. On a bien cru que Julien Alaphilippe pouvait perdre son maillot jaune dans le Galibier lorsque l'autre Colombien Egan Bernal a attaqué. Alaphilippe a lâché de précieuses secondes, mais au courage, en grimaçant, il est parvenu à s'accrocher. Et même s'il perd un peu de temps, il conserve donc son maillot jaune ce soir. En tout cas, les Ineos, Egan Bernal et Geraint Thomas ont bel et bien sorti leurs griffes. Un scénario qui en appelle d'autres, sans doute dès demain. Nouvelle étape redoutable avec l'ascension du mythique col de l'Iseran.
Il y avait également Marguerite, effectivement, dans ces grimaces d'Alaphilippe, un peu de Thomas Voeckler. On se souvient de la légende Voeckler sur ces mêmes cols il y a quelques années. Thomas Voeckler que vous retrouverez bien sûr dans le Club Tour d'Europe 1 avec Patrick Chassé à partir de 19h15.
Europe 1, 18h04, François Claus.
Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir François.
Vous avez passé la journée au bord de l'eau, près de Paris, c'est à Cergy-Pontoise, au nord-ouest de Paris, l'île des loisirs, un grand centre nautique où beaucoup de personnes allaient, Pierre, trouver un peu de fraîcheur. Vous avez rencontré la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui est venue sur place et qui a martelé ce message, qui dit chaleur, dit on veut aller au bord de l'eau, mais il y a des précautions à prendre. Je vous donne juste un chiffre, Pierre. 99 décès par noyade depuis le début du mois de juillet. C'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui nous le donnait tout à l'heure dans l'après-midi. Et donc, faire attention, Pierre Herbulot.
Oui, parce que forcément, avec les fortes chaleurs, on a envie de se rafraîchir. On se baigne plus, même ceux qui savent moins bien nager. Sur l'île des loisirs de Cergy, par exemple, il peut y avoir 40 000 personnes en un week-end. Autour de l'étang principal, les sauveteurs veillent au grain. Mais ça ne suffit pas toujours, explique Gérard Saint-Bille, le président de l'île de loisirs.
En termes de noyade, ce qui est beaucoup plus inquiétant pour nous, c'est tous ceux qui veulent transgresser les règles et qui veulent aller se baigner dans les autres étangs qui, eux, ne sont pas adaptés à la baignade et sont même interdits. C'est pour ça qu'on met en place des dispositifs nouveaux comme la vidéosurveillance qu'on a mis il y a deux ans, comme cette année le nouveau drone avec haut-parleur qui permet d'aller dire aux gens très rapidement « sortez de l'eau, c'est dangereux ».
L'île de loisirs de Cergy-Pontoise possède une baignade aménagée et surveillée par des maîtres nageurs. Merci de vous rapprocher d'un accueil pour plus d'informations.
Ce drone présenté ce matin à la ministre des Sports sera généralisé à toutes les autres bases de loisirs d'Île-de-France. Mais le plus important pour Roxana Maracineanu, c'est que tout le monde puisse apprendre à nager. L'ancienne championne de natation a d'ailleurs mis la main à la pâte. La scène se déroule dans un prototype de camion-piscine. Le principe est simple, le camion se déplace dans les villes et les villages sans piscine pour apprendre aux enfants à nager.
Eh hey, super, lève tes mains maintenant. Tu fais la même chose et sans toucher. Voilà.
Vous donnez des petits conseils de natation à la ministre ?
Bah oui, je suis maître nageur. Hein. Donc, je sais faire. Et il est capable de flotter maintenant dans un endroit où avant, il n'avait jamais mis la tête dans l'eau. Quoi.
Alors il n'y a qu'un camion comme celui-là pour l'instant, la ministre en veut beaucoup plus, même si la première précaution, François, pour éviter les noyades reste de bien surveiller ses enfants. L'an dernier, avec la canicule, les noyades ont progressé de 30%, un chiffre qui passe à 95% pour les enfants de moins de 6 ans.
Merci Pierre Herbulot, et je retiens le drone, c'est quand même extraordinaire, hein, qui ouais, remplace le maître absolument nageur sur sa chaise et qui signale tout danger. Et puis le camion-piscine, bah oui, on en veut des camions-piscines. Allez, on n'aime pas trop les camions sur les routes, mais les camions-piscines, oui.
Restez avec nous et surtout participez vous aussi au Grand Journal en appelant le 39-21, le standard d'Europe 1.
Bonsoir John.
Bonsoir, vous allez bien?
Bah oui, très bien, et vous-même en ces temps d'énorme chaleur? Vous nous appelez de la Marne, John?
Tout à fait, oui.
On vous écoute. Vous êtes à l'antenne.
Bah écoutez, moi je vois quand même une grosse différence par rapport aux grosses chaleurs. Hein, c'est vrai que sur la route, je suis chauffeur routier, hein, je vois mes collègues qui souffrent, et puis surtout les véhicules légers, hein, les voitures, les motos. Les motos d'ailleurs que je vois très très rarement sans blouson, sans cuir, donc en Bermuda, à l'arrière en basket, parce que c'est ça qui fait tellement chaud que conduire avec un cuir, ça doit être horrible. Et pareil, les véhicules légers avec beaucoup de serviettes éponges autour des carreaux pour les enfants, pour qu'ils restent bien à l'ombre, au frais. Et puis, les gens, voilà, qui sont vraiment en transpiration. Par exemple, sur le périphérique parisien, j'étais ce matin, sur les coups de 11h, il y avait entre 42 et 44 degrés. C'est qu'on voit que les gens, ils dégoulinent, quoi, dégoulinent. Entre les rouleaux de sopalin sur le siège passager, et puis les serviettes pour s'éponger constamment, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment, vraiment horrible.
Oui, un spectacle. Merci. Vous êtes un véritable reporter d'Europe 1, John. Vous nous racontez tout ce que vous voyez. Vous, comment est-ce que vous avez surmonté cela? C'était quoi votre stratégie?
Stratégie, c'est... J'ai roulé les carreaux ouverts, c'est pas évident. Moi, j'ai la chance d'avoir la climatisation dans mon camion. Donc, on va dire qu'à partir du moment où je roule, ça va. À partir du moment où on est en déchargement ou en chargement, là c'est un peu plus compliqué. Mais après moi, ma stratégie, ça va être de boire frais, puis de m'arrêter de temps en temps pour m'aérer. Mais m'aérer avec 40 ou 45 degrés dehors, c'est pas évident.
Oui, c'est le vrai souci. Merci beaucoup de votre témoignage, John. Bon courage, et vous avez entendu Elena Morna. Allez, il n'y a plus que quelques heures à tenir.
Europe 1. À suivre sur Europe 1, nous parlerons des vacances du président de la République Emmanuel Macron au fort de Brégançon. Et puis nous aborderons aussi le sujet du spatial français avec votre invité François Olivier Becht, député UDI de la 5e circonscription du Haut-Rhin et co-rapporteur du rapport sur la défense spatiale. À tout de suite. Votre grand journal du soir se poursuit. François Claus.
Bonsoir Jean-Rémy Bibaudeau du service politique d'Europe 1.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Il est donc arrivé dans le Var avec sa petite valise. Son épouse était là. J'ai nommé le président de la République. Il est arrivé au fort de Brégançon, domaine présidentiel qu'il apprécie beaucoup visiblement, même si l'Élysée promet Jean-Rémy des vacances calme et studieuse.
Ah oui François, lors du dernier Conseil des ministres, le président Macron avait appelé son gouvernement à faire preuve de sobriété pour les vacances. Un conseil qu'il s'est donc appliqué en rejoignant l'austère bâtisse varoise, le fort de Brégançon, où il devrait passer une bonne partie de l'été, loin des curieux et des caméras. L'entourage du chef de l'État fait savoir qu'il a prévu de se reposer, mais son programme politique reste un peu chargé. Il doit notamment parler avec le nouveau Premier ministre Boris Johnson. L'Élysée précise qu'il doit par ailleurs aussi préparer le G7 qui aura lieu fin août à Biarritz. Les réformes prévues à la rentrée sont par ailleurs encore très nombreuses. Le président en vacances, mais toujours connecté à l'actualité, explique une conseillère, à commencer par la canicule. On ignore pour l'heure si le président envisage de faire une sortie publique sur le sujet. Il laisse pour l'instant son gouvernement sur le terrain.
Et oui, un gouvernement qui fait feu de tout bois, si on peut dire. On est très très loin de la communication en polo rose, tout sourire, de 2003. Allusion évidemment à François Mattei, à Jean-François Mattei, à l'époque le ministre de la Santé, qui avait fait tant de mal au pouvoir. Donc là, les ministres sont sur le terrain, Jean-Rémy.
Oui, depuis ce matin, une dizaine de membres du gouvernement, sans compter le Premier ministre lui-même en déplacement dans un centre de vacances pour enfants. Ils étaient tous mobilisés sur le front de la canicule. On a par exemple Elisabeth Borne dans une gare, Christophe Castaner dans un centre d'appel d'urgence, ou encore Brune Poirson qui distribuait des gourdes recyclées. Chacun son style évidemment, tous sur le pont avec des messages de prévention, des messages de prudence à cette occasion de canicule. Des ministres qui pour la plupart vont aussi bientôt commencer leurs vacances. Beaucoup partiront avec des dossiers sous le bras, bioéthique pour les uns, loi énergie-climat pour les autres, statut des élus ou encore violence conjugale. La rentrée s'annonce extrêmement chargée pour l'exécutif. Des ministres qui sont priés de rester mobilisables et de ne pas partir trop loin de Paris. Sachez qu'il y a deux destinations phares au gouvernement cet été. Il y a le Pays Basque et la Grèce.
Pays Basque et Grèce. Bon, on ne va pas tirer de conclusion politique pour ceux qui vont en Grèce, mais il y a peut-être un acte militant de cette Grèce qui renaît de ses cendres au niveau européen.
Très à la mode. Donc.
Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
18h13, vous écoutez Europe 1. François Claus est votre premier invité, Olivier Becht, député EDI de la 5e circonscription du Haut-Rhin et co-rapporteur du rapport sur la défense spatiale.
La défense spatiale, effectivement, dossier fascinant. Bonsoir Olivier Becht.
Bonsoir.
La ministre des Armées, Florence Parly, était à Lyon cet après-midi pour développer le programme français de défense spatiale, car c'est bien là que se jouent peut-être les guerres de demain au niveau de l'espace. On ne mesure pas suffisamment peut-être l'enjeu de cette défense spatiale, Olivier Becht.
Oui, en fait, comme on ne voit pas l'espace, si ce n'est les étoiles la nuit, on a du mal à comprendre l'importance en fait de nos satellites, mais qui sont devenus vitaux dans tout un tas de gestes de la vie quotidienne, à commencer par toutes les transactions bancaires que nous faisons avec notre petite carte qui sont homologuées par GPS. Donc ça veut dire que si demain les satellites s'arrêtent, eh bien c'est tout le système économique, sans compter bien sûr les transports, les avions, les bateaux, etc., et puis une grande partie de nos télécommunications qui s'effondrent. Et donc protéger nos satellites contre les menaces étrangères est devenu un acte absolument vital pour la défense et la souveraineté du pays. C'est le travail que nous avions mené avec notre collègue Stéphane Trompi à la Commission de la Défense nationale, et que le président de la République, qui est désormais la ministre, ont repris dans la politique de la nation.
Et il y a un chiffre absolument sidérant, Olivier Becht. Il y a actuellement environ, on estime, 2000 satellites. On sera à 8000 satellites dans 5 ans. C'est pour vous dire l'enjeu. Et quand on dit protéger nos satellites, protéger, ben, c'est quasiment un acte de guerre. On envisage de mettre des armes sur ces satellites, on envisage de mettre des caméras, de développer des lasers à portée de 400 km de la Terre également. Vous pouvez nous expliquer l'arsenal qui est en train de se mettre en place pour défendre nos satellites?
Oui, si vous voulez, il y a différents niveaux. D'abord, la première chose, c'est qu'il faut savoir ce qui se passe en haut. Donc, il faut surveiller l'espace. On a plutôt l'habitude de surveiller la Terre depuis l'espace. Et bien là, il faut surveiller l'espace depuis la Terre. Donc, nous avons besoin de nouveaux radars, mais également de nouveaux télescopes qui permettent de savoir justement d'où vient cette menace. Ensuite, il faut évidemment être capable d'esquiver la menace. Donc, il va falloir être capable de manier nos satellites. Donc, il y aura des caméras qui seront installées sur les satellites. Et puis, on envisage également ce qu'on appelle des nanosats, si vous voulez, des satellites qui ont à peu près la taille d'un téléphone portable.
Non, mais, comme un essaim d'abeilles dans l'espace, quoi.
C'est ça, des nanosats, ou ce qu'on appelle aussi des CubeSats, c'est-à-dire des tout petits satellites, mais qui peuvent être utilisés, ce qu'on appelle comme chien de garde, c'est-à-dire la capacité d'abord de voir venir la menace et éventuellement de la neutraliser. Hein. Certains CubeSats peuvent être également utilisés comme des mines de l'espace avec des charges explosives, et puis également la possibilité donc d'embarquer des lasers qui, eux, sont capable de neutraliser les moyens d'observation ou de perturbation, parce qu'il y a également des satellites butineurs qui viennent capter de l'information, ou alors ceux qui sont capables de neutraliser également le satellite à distance.
C'est à la fois un travail dans l'espace et sur la Terre, avec une possibilité d'agir même à 400 km vers les satellites. Hein.
Tout à fait. C'est également la possibilité d'agir par la Terre, par des lasers, qui peuvent être des lasers ioniques ou des lasers classiques. Alors l'objectif, c'est pas vraiment de détruire les satellites adverses, parce que lorsqu'on détruit un satellite, on crée énormément de débris, et ces débris ensuite restent en orbite, tourbillonnent, et peuvent venir ensuite heurter nos propres satellites. Donc pour éviter les dommages collatéraux, l'objectif, c'est davantage de neutraliser les satellites à travers ces lasers, donc qui vont venir neutraliser les capteurs, voire faire véritablement du hacking, hein, comme sur en matière cyber sur un ordinateur, pour rendre le satellite tout simplement inopérationnel.
Oui, c'est absolument fascinant. Merci beaucoup Olivier Bech de nous avoir donné ces précisions. On rappelle, la France y consacre 3 milliards d'euros, hein, et on a confirmé cet après-midi qu'on affectait en plus 700 millions d'ici 2025 sur le budget de la défense.
Hein. Oui, ça reste raisonnable hein, par rapport, si vous voulez, aux dépenses militaires sur la loi de programmation militaire jusqu'à 2025. On a 300 milliards d'euros qui sont consacrés à la défense. Donc vous voyez que sur le spatial, on met à peu près 1%. Mais c'est 1% qui permettront de garantir la souveraineté, de la France.
On l'a compris.
Oui.
Merci de nous avoir éclairé sur Europe 1.
Je vous en prie.
Et je résiste
très
pas.
Très
bonne soirée à vous. Laser ionique, essaim de nanosatellites. Mais oui, on y est. Et oui, on voyait ça au cinéma à l'époque, 2001, l'Odyssée de l'espace. On ne croyait pas que ce monde serait là, à notre porte. Ben si, il y est, vous l'avez compris. Allez, hommage à Richard Strauss, cette musique qui nous a marqué toute une génération.
18h, 19h, François Claus sur Europe 1.
Et l'heure du rappel des grands titres de l'actualité à 18h, passé de 18 minutes avec vous, Sophie Echen, bonsoir.
Bonsoir François, bonsoir à tous. La journée des records de chaleur en Europe aujourd'hui, plus de 40 degrés en Belgique et aux Pays-Bas, 41,5 en Allemagne et puis 42,6 degrés enregistrés à Paris au pic de la canicule. Conséquence des fortes chaleurs, la compagnie ferroviaire Thalys suspend les ventes de billets sur toutes ses lignes en raison de perturbations dues à ces conditions climatiques exceptionnelles. Le nombre de chômeurs en légère baisse, moins 0,5% au deuxième trimestre, soit plus de 3,5 millions de Français, un recul de près de 2% sur un an. Le milliardaire Jeffrey Epstein, retrouvé dans un état critique dans sa cellule de la prison de New York aujourd'hui. Pour l'instant, les autorités ne savent pas s'il s'agit d'une agression ou d'une tentative de suicide. Jeffrey Epstein est en détention depuis le 8 juillet dernier pour trafic sexuel sur mineurs et association de malfaiteurs. Sa prochaine comparution est prévue le 31 juillet. Pour l'heure, aucun report n'a été prononcé. Et puis, Nairo Quintana remporte la 18e étape du Tour de France en solitaire. Première victoire d'étape pour le Colombien sur cette édition 2019. Alaphilippe conserve encore et toujours son maillot jaune.
Et on y revient bien sûr, Sophie Echen, dans le Club Tour à partir de 19h15.
Et restez avec nous dans un instant sur Europe 1. François Claus reviendra sur les restrictions d'eau en pleine sécheresse, concerne désormais 77 départements français. Puis direction le Maghreb aussi, où la Tunisie vient de perdre en plein mandat son président, Béji Caïd Essebsi, décédé ce jour à l'âge de 92 ans. Vos réactions au 39-21.
Très bien prononcé le nom du président tunisien.
Et encore, j'aurais pu dire Caïd. A tout de suite. 18h21, vous écoutez votre grand journal du soir avec François Claus et on parle des restrictions d'eau en France.
Oui Fatima, parce qu'au début du journal, on évoquait le risque de noyade avec Pierre Herbulot et la deuxième grosse angoisse pour le moment, ce sont ces feux, les feux de chaume, comme on dit, les champs qui partent en fumée à la moindre étincelle et au moindre mégot jeté, ils se multiplient dans tous les départements de France. Bonsoir Théo Manval.
Bonsoir François.
77 départements qui sont aujourd'hui soumis à des mesures de restrictions d'eau. Vous êtes, Théo, dans la Sarthe et les restrictions d'eau, eh bien, ça a des conséquences directes sur les agriculteurs, Théo.
Oui, avec des restrictions drastiques imposées par la préfecture dans le sud-est du département. Le bassin de la rivière Veuve est en crise. Interdiction totale d'irriguer les cultures par endroits et limitation à moins de la moitié de ce qui est autorisé d'habitude pour cette exploitante et ses champs de maïs.
Là, on irrigue à la hauteur de 40% du volume autorisé.
Mais dans le champ voisin, le jet d'eau pulse pourtant avec puissance. L'entretien tourne court.
Non, je ne souhaite pas pour l'instant vous répondre. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Si certains sont tentés d'irriguer quand même le plus possible, c'est parce que le maïs qui pousse les fait vivre et que la sécheresse à cette période, explique Patrice Brebion, qui lui n'arrose pas. C'est terrible pour leur récolte.
Parce que là, le maïs, il arrive à un moment critique, c'est qu'il va fleurir. Donc là, il faut de l'eau pour qu'il puisse faire les pics, qu'il finisse son développement. Ouais, dans le maïs, vous voyez. Là, il fait, il est moitié moins haut que d'habitude. Hein. Les feuilles sont recroquevillées sur elles-mêmes. Il manque d'eau, hein, et tout n'est pas perdu, mais on a quand même perdu au moins 30 à 40%, je pense. Hein.
Et on rappelle que les mesures de restriction s'appliquent aussi aux particuliers. Hein. Pas d'arrosage des pelouses, pas de nettoyage des voitures, pas de remplissage des piscines. Une bonne moitié du département de la Sarthe est en niveau orange, voire rouge de sécheresse. Inutile de vous dire, François, que tout le monde attend donc avec impatience le retour de la pluie qui doit arriver demain.
Qui doit arriver demain, nous l'a confirmé effectivement tout à l'heure Elena Morna. Merci Théo Manval. Et puis, autre conséquence, c'est les perturbations dans les transports. Restez bien à l'écoute. Appelez le 3921 si vous-même avez été victime d'une galère. Nous sommes avec Gilles Dansart, invité du Grand Journal ce soir, de votre Grand Journal ce soir à 18h30. L'événement de la journée aussi est venu de Tunisie. On a appris le décès à 92 ans du président tunisien Béji Haïd Essebsi. Bonsoir Jean-Sébastien Soldaini.
Bonsoir.
Il restera dans l'histoire comme le premier président de la Tunisie post-printemps de Tunis de 2011, le premier président post-Ben Ali.
Oui, c'est celui qui a su apporter l'apaisement à la Tunisie après le tumulte de la Révolution. C'est lui qui, en moins d'un an, réussit à organiser les premières élections libres de l'histoire du pays, celles qui permettent d'assurer la transition. Derrière lui, il parvient à unir des milieux très différents, hommes d'affaires, universitaires, syndicalistes, pour fonder son parti et finalement prendre le pouvoir en 2014. Son combat devient alors sociétal. Il veut moderniser la Tunisie et ça passe par le statut des femmes. Il les veut au cœur de cette transformation qu'il essaye d'impulser. Lève l'interdiction pour les musulmanes de se marier avec des non-musulmans. Il avait aussi amorcé une réforme pour établir une sorte d'égalité homme-femme sur les successions. Réforme qui était entre parenthèses à l'approche des élections prévues à l'automne. En revanche, sur le plan économique, ça pêche. Le pays est toujours fragile avec un taux de chômage autour de 15%.
Et oui, Jean-Sébastien, c'est la grande fragilité, cette situation sociale en Tunisie. Mais il peut se prévaloir, malgré tout, d'avoir maintenu une véritable stabilité politique. Est-ce que cette stabilité est aujourd'hui, Jean-Sébastien, menacée ?
Oui, cela fait quelques mois que les couteaux s'aiguisent pour sa succession. Son parti est divisé en interne, notamment en raison de la place accordée à son fils Hafed Essebsi. C'est lui qui dirige le parti, du coup ses opposants crient au népotisme, ce qui laisse envisager une bataille qui diviserait le pays. Et donc s'apprête tout le travail d'union mené par Béji Caïd Essebsi ces dernières années, union qui ne tenait finalement que sur sa personne, lui qui a participé à la politique tunisienne depuis plus de 40 ans. Il laisse aussi un pays fragile sur le plan de la sécurité. Son mandat a été marqué par de violentes attaques djihadistes, le musée du Bardo, les plages de Sousse et même l'avenue Bourguiba, le centre de la vie de la capitale. Pourtant, ces attaques ne déstabilisent pas la Tunisie qui reste le pays ayant le mieux géré l'après-printemps arabe.
Merci Jean-Sébastien Soldaini.
18h26, Europe 1, François Clos.
Vous vous souvenez très certainement de cette véritable scène de western en plein centre de Tarascon devant le palais de justice. Nous étions le 28 janvier dernier lorsque deux hommes lourdement armés, hein, des fusils d'assaut, ont fait irruption devant le palais de justice de la ville pour libérer un détenu qui était en transfert. Ce détenu, Lofti Boussouak, 27 ans, et a pu ainsi retrouver la liberté, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Bonsoir Nathalie Chevance.
Bonsoir François.
Correspondante d'Europe 1 dans le sud-est de la France, Nathalie, grâce au travail conjoint des PJ de Marseille, de Montpellier et de la brigade de recherche des fugitifs, eh bien Lofti Boussouak a été interpellé aujourd'hui dans le Gard, non loin d'Alès.
Oui, 6 mois de cavale qui se sont achevés à 7h ce matin dans une ferme perdue dans le haut du Gard, département d'origine de Lofti Boussouak, qui a donc choisi de revenir sur ses terres après s'être mis au vert au Maghreb. Ce matin, 25 enquêteurs appuyés par un hélicoptère sont venus le cueillir avec deux de ses complices, probablement ceux qui avaient organisé son évasion spectaculaire fin janvier. Le fugitif a tenté de s'échapper, s'en est suivi une course-poursuite avec les forces de l'ordre qui ont réussi à le plaquer au sol. Fin de parcours donc pour ce malfaiteur de 28 ans au lourd pédigré, Eric Arella, directeur de la DIPJ de Marseille.
C'est un beau voyou, on voyait très bien qu'il est sur un parcours ascendant dans le banditisme. C'est un Nîmois d'origine, hein, donc il connaît très bien le Gard et il a malheureusement déjà sévi puisqu'il est connu pour 14 faits différents, hein, du trafic de stupes et surtout pour des vols, puisque des vols notamment avec violence commis sur autoroute ces dernières années. Et ce sont ces faits qui laissent entendre que ses proches gardois pouvaient rester à son contact, ce qu'on a réussi à démontrer clairement aujourd'hui.
Des malfaiteurs qui, pendant 2 ans, ont notamment dévalisé des automobilistes sur la 7 et la 9, n'hésitant pas à les braquer pour les dépouiller. Mais ce soir, c'est donc retour à la casse-prison pour l'évadé de Tarascon.
Merci beaucoup Nathalie Chevance. Ça s'avérait un petit peu plus doux, hein, à la prison de Grasse. Les gardiens, eux, ont trouvé quoi ? Des scies à métaux dans un sac. Pour une évasion qui se préparait, elle n'aura pas lieu.
Europe 1. Allez, nouvelle invitée à venir dans un instant dans votre grand journal du soir. Gilles Dansart, spécialiste du transport ferroviaire, sera avec François Claus pour évoquer la canicule, mais surtout les répercussions sur le réseau SNCF et RATP. Météo avec Elena Mornay, rappel des titres aussi. Restez avec nous sur Europe 1.
Alors Elena Morna, on parlait de journée historique, c'est effectivement la journée de tous les records, hein. Affolante on peut dire.
Ouais, des records pulvérisés, on a frôlé les 44 degrés François dans le Val-de-Marne à Saint-Maur-des-Fossés. Dans la plupart des départements en alerte rouge, on était de toute façon au-dessus de 40 degrés, département qui reste en vigilance, hein, je précise, rouge ou orange jusqu'à demain matin. Alors l'autre élément qui va faire maintenant l'actu météo, ce sont les orages violents, ce soir déjà sur la Normandie, le Cher et l'Allier, des orages violents avec de fortes pluies, du vent, localement de la grêle, des orages qui vont mettre un terme d'ailleurs à l'ascension vertigineuse des températures. Alors on en aura d'autres demain matin sur l'ouest avec de bonnes pluies enfin, puis sur les Hauts-de-France et le massif jusqu'au massif central où ils resteront violents, prudence. Hein. Ce sera encore très sec et chaud à l'est avec 38 degrés au moins à Nancy et Lyon, 36 à Vesoul et Belfort, 35 à Auxerre et Avignon, tandis que sous les orages ou après leur passage, les températures chutent, 21 degrés à La Rochelle, 23 à Bordeaux et Biarritz, 26 à Rouen et Agen, 30 à Paris et Bourges, des orages qui vont ensuite gagner les régions de l'Est samedi, j'y arrive.
Et puis j'ai vérifié, Léna, depuis qu'on mesure les températures à Paris, depuis 1873, en fait Paris n'avait dépassé qu'une seule fois les 40 degrés, c'était
en 1947, juste après la guerre.
C'est pareil en Europe, record en Belgique, record aux Pays-Bas, plus de 40 degrés, voilà. En Allemagne également.
Et après, ce sera la Scandinavie à partir du week-end, voilà. On aura 35-40 degrés.
Voilà, météo européenne sur Europe 1.
Europe 1, 18h30, François Claus.
Et avec vous, Sophie Echen, le rappel des grands titres de l'actualité.
Une femme de 43 ans est morte aujourd'hui à Vénissieux, près de Lyon. Son mari l'a écrasée avec sa voiture alors qu'il avait interdiction de l'approcher. Placé en garde à vue, il était déjà poursuivi pour violence conjugale. C'est le 81e féminicide depuis le début de l'année. Le nombre de noyades en hausse, plus 30% par rapport à l'an dernier. 60 personnes sont mortes noyées depuis le début du mois de juillet. Hier soir, un petit garçon de 2 ans est tombé dans une piscine à Saint-Vert, en Haute-Loire. Il aurait brièvement échappé à la vigilance de ses parents. Les demandes de modification de l'accord du Brexit formulées par Boris Johnson jugées inacceptables par le négociateur de l'Union européenne, Michel Barnier. L'UE doit se préparer à une sortie du Royaume-Uni sans accord, a-t-il averti. Boris Johnson avait déclaré plus tôt que si un accord devait être conclu, il fallait éliminer le filet de sécurité sur la frontière irlandaise. Emmanuel et Brigitte Macron commencent leurs vacances aujourd'hui. Le couple présidentiel a pris ses quartiers au fort de Brégançon dans le Var. Le chef de l'État qui va notamment profiter de sa pause pour préparer le sommet du G7 qui aura lieu à Biarritz du 24 au 26 août prochain. Et puis Julien Alaphilippe reste en jaune à l'issue de la 18e étape du Tour de France aujourd'hui. Une étape remportée par le Colombien Nairo Quintana. Romain Bardet finit lui sur la 2e place du podium.
Et il enfile le maillot à pois, ce qui est quand même un succès français également. Club Tour à partir de 19h15. Merci Sophie Echen.
18h, 19h, votre grand journal du soir avec François Claus sur Europe 1.
Bonsoir Gilles Dansart.
Bonsoir.
On est très heureux de vous avoir sur Europe 1 ce soir en direct. Vous, le grand spécialiste des transports, directeur de cette lettre qui fait référence dans le monde des transports, Mobile Lettre. Alors Gilles Dansart, on voulait vous entendre ce soir. On est un petit peu surpris de cette situation de chaos dans les transports, que ce soit le RER, que ce soit les TGV, les TER. On a le sentiment là que le réseau ferroviaire français n'arrive pas à supporter le moindre aléa climatique un petit peu exceptionnel.
Plus que des incidents à répétition et très nombreux, c'est plutôt les conditions de gestion des voyageurs dans ces situations perturbées qui posent problème. Parce que un petit retard ou une petite panne en temps normal se gère assez facilement. Dès qu'il fait très chaud, ça prend des proportions très importantes. Donc il y a une caisse de résonance très importante. Et donc en temps de canicule, ça ne pardonne pas. Donc cette canicule révèle les faiblesses structurelles du réseau français et de l'exploitation ferroviaire, mais on ne peut pas dire que c'est absolument la catastrophe du point de vue des chiffres et du nombre d'incidents. C'est plutôt que c'est vraiment difficile à gérer et ça crée pour les voyageurs des conditions de voyage absolument difficiles et compliquées.
Est-ce qu'il y aurait une spécificité, Gilles Dansart, française ? Parce qu'on a le sentiment que, alors on n'a peut-être pas suffisamment d'informations, mais que chez nos voisins, les choses se passent de manière plus fluide.
Que ce soit des températures très basses ou des températures très hautes, ça révèle toujours les faiblesses et les fragilités des systèmes. Donc on sait depuis longtemps que la France a sous-investi sur un certain nombre de réseaux. Les réseaux denses comme celui de l'Île-de-France et les réseaux moins utilisés en zone rurale. Donc, c'est pas étonnant qu'on ait ces situations compliquées aujourd'hui. Ça ne peut s'améliorer que sur la durée. Donc, malgré les grandes déclarations et les promesses liées aux différentes réformes ferroviaires, tout ça ne s'améliorera que sur la durée. Et on ne peut que constater que les efforts sont pas à la hauteur des annonces, c'est-à-dire que les crédits promis n'arrivent pas forcément toujours.
Donc ce sont des voies obsolètes, c'est un système de transport qui mériterait d'être... Parce qu'on parlait de la dilatation des rails, par exemple, et effectivement, on se dit, quand il fait autour de 45 degrés sur une voie ferroviaire, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Vous nous dites quand même, vous, qu'il y aurait des investissements à faire qui n'ont pas été faits.
Ça n'est pas tant sur les rails que se pose le problème ou les plateformes, c'est beaucoup sur le système électrique et de signalisation. Ça fait des années que on a remis de l'argent effectivement sur l'infrastructure physique, celle qui se voit le plus, mais c'est plus aujourd'hui sur ces systèmes d'alimentation électrique que se concentrent les problèmes. D'ailleurs, il y a eu un incendie hier à Noisy qui a perturbé tout le RERD dans la région parisienne. Il y a eu aussi des incidents en province. Donc c'est plutôt ces systèmes-là, électriques et signalisation, qui pêchent aujourd'hui. Donc il va falloir aussi s'en occuper, au-delà même des rails et des caténaires qui tiennent plutôt bien la route, si je puis dire, ou la voie, depuis quelques jours.
Alors restez bien avec nous, Gilles, nous avons beaucoup d'appels au 39-21, des auditeurs évidemment qui ont du mal à comprendre qu'un ministre vienne nous dire « ne vous déplacez pas si ce n'est pas un besoin urgent ». Et nous avons notamment Romain qui nous appelle d'ici les Moulineaux, tout près de Paris. Bonsoir Romain.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Alors Romain, votre point de vue à vous sur cette situation dans les transports liés à la canicule ?
Bah écoutez, moi j'ai pris ce matin la ligne 13 du métro, parce que je bosse en sous-préfecture à Saint-Denis, et effectivement la situation est intenable. Enfin, je conseille à quiconque d'essayer de prendre le métro à ces heures, même matinales, déjà très chaudes, c'est insupportable. Enfin, vous transpirez, comment voulez-vous arriver au travail dans de bonnes conditions ? Ça n'est pas vivable, et on se demande ce que fait la RATP, enfin, où est la climatisation ? Où est, je ne sais pas, où sont les brumisateurs ? Enfin, trouvons des moyens pour aider les Franciliens et les Parisiens à aller travailler dans des conditions correctes. Enfin, j'ai déjà été à Lisbonne dans ma vie, dans ma courte vie, je n'ai que 32 ans, mais à Lisbonne, le métro est quand même climatisé, donc ça change beaucoup de choses. À Paris, quand vous prenez la ligne 13, la situation est irrespirable, intenable, c'est horrible. On se demande ce que fait vraiment la RATP.
Alors restez bien avec nous, Romain. Réponse, Gilles Dansart.
Ah ben là, on est typiquement sur les lignes dites historiques, que ce soit la SNCF ou la RATP ou même les transports urbains en province, où les investissements en nouveau matériel ne peuvent pas tout d'un coup générer des matériels climatisés ou ce qu'on appelle la ventilation réfrigérée, parce que la durée de vie de ces matériels est de 30 ans. Donc on peut pas dire au bout de 10 ans, et il y a 10 ans, on n'envisageait pas la climatisation systématique, parce que les fortes chaleurs étaient beaucoup plus rares qu'aujourd'hui. Donc il va falloir effectivement attendre de très nombreuses années sur ces lignes historiques pour avoir des conditions de voyage dignes dans ces cas de fortes chaleurs. Donc là, c'est une inertie du système, mais malheureusement, encore une fois, la durée de vie de ces matériels, elle est 30, 40, voire plus. Donc ils peuvent difficilement faire de miracles, sauf effectivement à envisager des brumisateurs, des solutions un peu temporaires.
Et un peu humaines, parce que ce qu'on ressent dans les propos de Romain, c'est l'inhumanité du système. Est-ce qu'on peut comprendre qu'une ministre des Transports, en pleine période de transhumance, de vacances, vienne nous dire « si vous pouvez, ne voyagez pas », Gilles Dansart ?
Ça, c'est de la communication de précaution. C'est-à-dire que les politiques, depuis 2003 et la grande canicule, où les politiques avaient été accusées d'inaction. Donc maintenant, on prend les devants et c'est le principe de précaution. Donc la SNCF aussi a dit, si vous pouvez porter votre voyage, faites-le, etc. C'est difficilement compréhensible parce qu'une grande partie des Français travaillent ou ont prévu des voyages de vacances depuis longtemps.
Et puis on ajoute la circulation alternée qui empêche un certain nombre de véhicules de rouler aussi en ce moment. Donc ne prenez pas votre voiture particulière si vous avez une vignette au-delà de deux. Et si possible, ne prenez pas le train ni ne prenez pas le RER. Ça crée des situations un petit peu compliquées. Un dernier mot peut-être du côté de Romain. Vous ressentiez quoi sur cette ligne 13 ce matin, Romain ? Alors qu'il va faire 42 degrés, il fait 42 degrés à l'heure où l'on parle actuellement à Paris.
De la frustration, là, j'ai déjà peur de prendre la ligne dans l'autre sens ce soir pour retourner à Issy-les-Moulineaux.
Mais vous êtes dans un endroit climatisé quand même.
Oui, fort heureusement, même si bon, la climatisation n'est pas réglée non plus à 20 degrés, donc il fait quand même chaud dans le bureau, mais effectivement j'ai cette chance d'avoir un bureau climatisé. Mais honnêtement, c'est de la frustration et c'est un sentiment en fait d'abandon de la part des transports parisiens, simplement.
Merci beaucoup, Romain, d'avoir été en ligne avec nous, d'avoir appelé le 3921. Et merci à vous, Gilles Dansard, je rappelle, directeur de Mobilettre, de nous avoir éclairé sur ces bugs à répétition en temps de canicule sur les réseaux de transport. Bonsoir à vous.
Europe 1. Et nous continuerons justement à parler de cette chaleur sans transition aucune. Réchauffement et dérèglement climatique sont les prochains thèmes que nous aborderons avec François Claus. Réagissez dans votre grand journal d'histoire au 3921, le standard d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1, 18h41, François Claus, on parle environnement à présent.
Oui, on va parler environnement, on évoquait le phénomène conjoncturel de canicule qui nous touche dans les transports, dans notre vie quotidienne, et la question évidemment qui sous-tend ce qui se vit aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre directement ce que les scientifiques développent et ce sur quoi ils nous alertent depuis des années, ce qu'on appelle le réchauffement de la Terre. La une du grand quotidien Le Monde cet après-midi, c'est une photo absolument exceptionnelle où on voit le Groenland avec des chiens de traîneau qui pataugent, oui, jeudi, qui patauge dans de l'eau. Le Monde qui relaie une étude de la grande revue scientifique Nature qui annonce que la Terre vit tout simplement sa période la plus chaude depuis 2000 ans. Bonsoir Justin Morin.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Justin. Et justement, cette illustration d'un phénomène qui serait plus structurel que conjoncturel et qui nous inquiète, on le vit actuellement en Alaska. C'est l'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l'ONU qui nous signale qu'il y a eu 400 départs de feu dans la région la plus septentrionale des États-Unis, l'Alaska, Justin, depuis le début de l'année.
Oui, effectivement. Les images transmises par un satellite européen ces derniers jours sont vraiment parlantes. En Alaska, vous le disiez, l'extrême nord-ouest du continent américain, un épais rideau de fumée grise couvre un pan immense du territoire, mais idem aussi au Groenland ou en Sibérie. En fait, c'est dans beaucoup de régions du cercle arctique où les plus violents incendies ont brûlé l'équivalent de 100 000 terrains de foot. L'équivalent de 100 000 terrains de foot, c'est vraiment énorme.
Un chiffre parlant, oui.
Alors, ce n'est pas rare qu'il y en ait des incendies à cette période de l'année, mais pas autant. Et surtout, pas aussitôt, d'après le rapport de l'Organisation météorologique mondiale, qui décrit une situation sans précédent. En fait, les températures sont exceptionnellement chaudes depuis 2 mois maintenant. Et ce qui est intéressant, d'après le rapport, c'est que ce cercle arctique est un peu le baromètre du réchauffement climatique. On y constate les effets beaucoup plus rapidement qu'ailleurs. En Sibérie, par exemple, la température moyenne pour ce mois de juin est supérieure de 10 degrés par rapport à celle enregistrée entre 1980 et 2010. C'est cette chaleur qui assèche les forêts et rend les feux si dévastateurs. Alors, ils s'étendent sur des zones inhabitées, donc ils ne font pas de victimes. En revanche, c'est vraiment une catastrophe pour l'environnement. D'abord parce que ces incendies rejettent des quantités astronomiques de CO2 dans l'atmosphère. En 2 mois, ils ont émis l'équivalent de ce qu'émet un pays comme la Suède sur une année. Mais aussi parce que ces fumées noires charrient des cendres qui peuvent voyager très loin, jusqu'à la banquise, et c'est ce qui inquiète les scientifiques. Ces particules se déposent au sol et risquent de provoquer une fonte plus rapide des glaces.
Et s'il y avait besoin d'une confirmation, Justin Morin, il faut aller vers l'Islande également. L'Islande, cette terre qui nous fascine, qui est un petit peu un miroir de notre monde. Énormément de touristes y vont. On voit aujourd'hui le monde de la BD, des séries, là je pense à Polar ou des romans. On lisait le dernier Marc Duguin, Transparence, qui se passe sur cette terre d'Islande. Et bien en Islande, des scientifiques, pour marquer le coup, ont décidé de poser une pierre commémorative. Non, ce n'est pas une victime humaine, c'est un glacier qui était là, un immense glacier, Lökjökull. Eh bien, il n'est plus là et il fallait marquer l'événement. Alors, en Islande, on a posé, Chanel Petit, une plaque pour se remémorer de Lökjökull.
Il y avait là pendant des millions d'années un monstre de glace aux reflets turquoise. 50 mètres d'épaisseur, 16 km carrés. Aujourd'hui, le glacier Ökjökull n'est plus qu'un modeste cercle d'argile, de vases, de sable et de gravier. Il a perdu 95% de sa surface en un siècle. Dans quelques semaines, deux scientifiques américains honoreront donc sa mémoire en déposant sur place une plaque aux lettres d'or avec ce message pour les générations futures. Tous nos glaciers devraient connaître ce sort au cours des 200 prochaines années. Nous savons ce qui doit être fait. Vous seuls savez si nous l'avons fait. Avec ce premier monument érigé en l'honneur d'un glacier disparu, les scientifiques espèrent marquer le coup, provoquer un électrochoc. Près de la moitié des sites du patrimoine mondial pourraient perdre leur glacier d'ici 2100 si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel.
Merci Chanel Petit. À 18h et bientôt 46 minutes, ça va être l'heure du rappel des titres de l'actualité avec vous, Sophie Hachen.
18h, 19h, François Claus sur Europe 1.
La baisse du chômage se confirme en France avec un rythme un peu plus faible au deuxième trimestre, moins 0,5%, un recul de près de 2% en un an. Paris bat son record de chaleur, 42,6 dans la capitale cet après-midi. De manière globale, le mercure a souvent dépassé les 40 degrés sur le territoire aujourd'hui. La compagnie de train Thalys ferme la vente de billets sur toutes ses lignes pour aujourd'hui et demain, en cause des problèmes sur leurs infrastructures suite à la vague de chaleur. La France lance son programme de défense dans l'espace. 700 millions d'euros vont être investis d'ici 2025. L'État qui va renforcer ses moyens de surveillance et se doter de capacités d'autodéfense. En Tunisie, le président Béjikaïd Essebsi est mort aujourd'hui à 92 ans. Il était le premier chef d'État tunisien élu de façon démocratique en 2014, trois ans après la chute de Ben Ali. Emmanuel Macron rend hommage à un ami de la France et un dirigeant courageux. Et puis le Tour de France, c'est la victoire de Nairo Quintana dans les Alpes aujourd'hui. Alaphilippe reste en jaune. Au programme demain, un peu plus de 126 km entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes.
Merci Sophie Hachen.
Et l'été, c'est la saison des plages, des apéros, mais aussi des festivals. Restez avec nous à suivre François Claus et...
Nicolas Caro, il est là, regardez, il vient d'entrer dans le studio.
Bien entendu, on parlera d'un festival à ne pas manquer justement.
Les festivals de livres surtout, c'est la nouvelle tendance. Festival, on pense musique, on pense danse. Non, on fait des festivals où on lit des textes. Vous allez voir, c'est fascinant. Nicolas Caro est là et on prendra la direction.
Il n'y a pas que la musique justement.
Et on prendra la direction d'une belle ville dans le sud, celle de Sète.
Votre grand journal du soir avec François Claus et donc Nicolas Caro. Nous parlons de festival littéraire.
Littéraire, absolument. Bonsoir Nicolas Caro.
Bonsoir François et Fatima.
Bonsoir.
Oui, c'est une vraie tendance. Les festivals qui mettent en exergue le livre, les textes, le théâtre, la poésie. Et c'est partout en France, Nicolas.
Oui, on a de quoi lire vraiment cet été. Il y a de la littérature pour tout le monde et surtout partout. À Quimper, par exemple, se tiendra le week-end du 3 août le salon du livre policier. Ça, c'est pour vous, François.
Ah, j'y vais, oui.
Des auteurs de polar qui seront là pour dédicacer leurs livres dans les jardins de l'évêché. C'est très joli. À Cap-Breton, dans les Landes, attention, du 5 au 8 août, le festival du conte fête ses 30 ans. Ça, c'est beau, le festival du conte. Beau comme le festival chansons et mots d'amour. Toujours dans les Landes, Amou, c'est la ville entre Dax et Pau. Et
on y sera mardi soir, restez bien à l'écoute là, parce qu'il y aura notamment un certain Oxmo Puccino.
Et ben voilà, c'est ce que j'allais dire, invité cette année, Oxmo Puccino entre autres. Et puis il existe aussi les Nocturnes littéraires qui emmènent une cinquantaine d'auteurs sur les routes. La caravane passe par la Méditerranée, Bandol, Cassis, Salon de Provence, puis dans le Morbihan, notamment à Sainte-Anne-d'Auray et à Quiberon. Et tant qu'on se balade sur la côte atlantique, on peut faire peut-être un petit détour à l'Île-Dieu pour une île des auteurs, sa présidente Marie de Henzel.
La Biennale se situe sur la place de la Pilée, sur le port Joinville. C'est une association que j'ai fondée il y a 10 ans, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des auteurs connus, moins connus, qui ont une résidence à l'Île-Dieu, dont le plus célèbre est évidemment Amine Malouf, notre académicien.
Et oui, il y a beaucoup d'auteurs sur l'Île-Dieu et donc ils se réunissent tous pour dédicacer leurs livres. En plus, c'est magnifique l'Île-Dieu. Et puis pour finir, l'été littéraire, il faudra quitter la France pour se rendre à Namur en Belgique. C'est là que Benoît Poelvoorde organise chaque année l'intime festival. Benoît Poelvoorde, c'est un passionné de littérature. Et cette année, il y aura notamment des lectures de Niels Harstrup ou Mathieu Amalric. C'est du 23 au 25 août.
Et Nicolas, si je vous dis Georges Brassens ou Paul Valéry, vous pensez évidemment à Sète et son cimetière marin. Et Sète célèbre également la littérature et notamment la poésie. Nous sommes heureux d'avoir la présidente du festival Vive Voix, Maïté Vallès-Blette. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est le festival Voix Vive, pour être tout à fait précis.
Voix Vive, oui.
C'est jusqu'au 27 juillet et Sète va vibrer au son de la poésie. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe. Les poètes viennent et déclament partout dans la ville leurs textes.
Non, c'est un festival qui réunit plus de 80 poètes venant de tous les pays de culture méditerranéenne, qu'il s'agisse de pays autour de la Méditerranée ou ailleurs dans le monde, comme par exemple l'Amérique du Sud, certains pays d'Afrique, l'Amérique du Nord, avec la francophonie. Et dans la ville, plus de 40 scènes sont installées pour les accueillir et leur permettre de transmettre leur poésie. Et la poésie est transmise à la fois à travers des lectures, mais aussi à travers des spectacles poétiques et musicaux. Les poètes sont accompagnés de musiciens, de conteurs, de chanteurs, de comédiens qui, avec eux, proposent une manière plurielle de diffuser la poésie.
Et question de Nicolas Caron.
Non, j'ai juste vu que dans votre festival, il y avait notamment une lecture de poésie en langue des signes. Comment ça se passe, ça ?
Eh bien, nous travaillons en amont du festival avec une association spécialisée dans la langue, avec deux associations spécialisées dans la langue des signes, auxquelles nous confions les textes des poètes invités, donc qui travaillent à leur traduction en amont. Et pendant le festival, nous avons des rencontres quotidiennes au cours desquelles le poète à la fois lit dans sa langue, puisque les poètes à 7 lisent toujours dans leur langue et sont accompagnés de comédiens qu'ils lisent en français lorsqu'il ne s'agit pas du français, et simultanément, des interprètes en langue des signes traduisent, disent les poèmes en langue des signes. Et ces rencontres-là sont destinées bien évidemment à un public sourd, mais aussi à tous les publics qui découvrent cette langue qui est extrêmement puissante. Puissante, il y a une force expressive très réelle. Et par exemple, découvrir un poème en langue des signes et l'entendre après en langue parlée permet de mesurer à quel point la langue des signes a transmis des choses essentielles, même s'il était difficile de se formuler lesquelles.
Ce qui est important, je retiens un mot dans vos propos, Maïté Vallès-Blett, c'est le transmission. Pour vous, ce qui est important dans ces moments uniques qu'on vit à 7, c'est une sorte de passage entre l'auteur et le passant ou celui qui est là ce soir-là.
Oui, vous savez, la parole poétique est une parole essentielle, et particulièrement, je dirais, dans le monde contemporain où si peu de place lui est laissée. Et pourquoi est-elle essentielle ? Parce qu'elle se préoccupe toujours de l'humain. Quelle que soit la réalité vers laquelle se tourne le poète, puisqu'un poète est toujours inscrit, comme tout créateur, dans la réalité du moment où il vit, dans le monde dans lequel il vit, quelle que soit cette réalité, la parole poétique concerne l'humain. Et dans l'humain, chacun se reconnaît à un moment ou à un autre. Et cette parole est une nourriture dans un monde qui laisse tellement de place au matériel, à la compétition entre les êtres, enfin, et qui oublie les êtres.
Et c'est une pause d'autant plus saine dans ce lieu magique de Sète. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. Il y avait 7000, on estimait à 7000, aujourd'hui il y a plus de 20 000 personnes qui viennent et 70 000 qui viennent à Sète pour écouter de la poésie.
Nous avons eu l'année dernière 70 000 spectateurs. C'est la 22e édition du festival. Et depuis 22 ans, la fréquentation du festival n'a cessé de croître. Il n'y a pas eu une seule année, même de stagnation. Ce qui signifie que le public est sans doute notre meilleur vecteur de communication, de transmission. C'est un public qui vient au festival, va revenir avec des amis, avec de la famille, va en parler. Et je crois que c'est de cette manière que la fréquentation ne cesse d'augmenter.
Ne cesse d'augmenter, et ça fait du bien dans le monde d'aujourd'hui d'entendre des mots. Merci de nous avoir fait partager votre passion. Allez donc à 7 dans les prochaines heures, c'est jusqu'au 27 juillet prochain. Merci Maïté Vallès-Blett d'avoir été ce soir en direct sur Europe 1.
Merci à vous.
Alors eux, ce sont des poètes aussi, hein, et où ce sont, ils ont inspiré beaucoup de littérature. On pense à Antoine Blondin notamment. Allez, des coureurs du Tour de France, le Club Tour, c'est dans, allez, 10 minutes, Axel.
Oui, dans 10 bonnes minutes, mais on a vécu de belles choses aujourd'hui parce que Julian Alaphilippe est toujours en jaune. Alors derrière lui, c'est plus Geraint Thomas, c'est Egan Bernal qui a récupéré un petit peu de temps, mais il est quand même encore à 1 minute 30. On a un nouveau maillot à poids français, c'est Romain Bardet. Thibaut Pinot qui est toujours dans la course, même s'il a rétrogradé d'une place puisque Bernal a pris un petit peu de temps. Bref, tout est encore très ouvert alors que demain, il y a une sacrée étape de montagne qui va de nouveau arriver. François, on en reparlera, mais on aura davantage d'idées sur qui sera le maillot jaune final sur les Champs-Elysées demain.
Ouais, parce que ce sera une arrivée au sommet. À tout de suite, Axel. Le temps pour moi, Fatima, mais d'abord de vous remercier d'avoir partagé cette heure avec moi.
On vous remercie demain.
Demain, c'est l'homme du VSD, Sébastien Guyot. Ben, on se retrouve lundi, mais je voulais remercier l'équipe qui m'a encadré pour ces informations, notamment le gang des Basques à Europe 1, Alain Acco, Fabien Tchekopar et Samuel Etchevest, qui s'en vont, eux, ce soir, ils vont fêter ça dignement comme Basque. Ce sera une sorte de feria décalée ici à Europe 1 ce soir. Christophe Pierrot à la réalisation, lui, sera là la semaine prochaine. Naïma Bencheman, Emmanuel Calma, qui m'entourent également, continueront évidemment le travail. On est là tout l'été pour vous. Et puis je pense à Pierre-Louis Moget qui vous accueille également au Standard et qui fait un formidable travail, parce que la radio, bah, c'est un travail d'équipe. On serait rien sans vous, les auditeurs. Donc merci à vous de nous suivre sur Europe 1. Nous, on se retrouve lundi, demain, même heure, Sébastien Guyot.
Merci François et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Restez avec nous sur Europe 1.